Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 15h en temps universel, 16h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Un sommet extraordinaire de la Ligue arabe convoqué face à la volonté de Donald Trump d'expulser les Palestiniens de Gaza. Et dans ce journal, on parlera aussi du retour au pays de 5 Thaïlandais, anciens otages du Hamas et libérés il y a une dizaine de jours. Également dans l'actualité, les élections législatives au Kosovo aujourd'hui. Et puis la mauvaise passe de Tesla, la marque automobile d'Elon Musk, paie à la fois les provocations de son propriétaire et la crise du marché de la voiture électrique. Dans 10 minutes, après ce journal, vous retrouverez en sol majeur Yasmine Chouaki reçoit le rappeur OGB, Samir Sala qui publie son autobiographie. C'est la dernière lubie de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a évoqué la possibilité d'un État palestinien en Arabie Saoudite. Colère des Saoudiens et de plusieurs pays arabes. Au-delà de cette déclaration du premier ministre israélien, les pays arabes sont aussi vent debout face à la proposition de Donald Trump d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza. Et l'Égypte vient d'annoncer la tenue d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe le 27 février au Caire où siège la Ligue arabe Alexandre Bouchanti.
Le sommet doit répondre aux récentes propositions du président américain Donald Trump de contrôler Gaza pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Un sommet où le Caire sera aux manettes puisqu'il est aussi directement concerné par une autre proposition du président Trump, évacuer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. S'il ne fait pas de doute que les propositions américaines seront rejetées, il sera intéressant de voir quelle sera la formulation de la résolution. Un rejet violent, comme le souhaitent les pays qui ne reconnaissent pas Israël, ou un rejet ferme mais modéré de la part des pays qui ont reconnu directement ou indirectement l'État hébreu. La reconstruction de Gaza et la participation arabe sera aussi abordée. Et pour prévenir un malentendu, le ministre égyptien des Affaires étrangères se rend à Washington rencontrer des hauts responsables de l'administration et du Congrès. L'Égypte reçoit annuellement 2 milliards de dollars d'aide économique et surtout militaire des États-Unis. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
En Cisjordanie, deux femmes ont été tuées aujourd'hui par l'armée israélienne lors d'une opération menée dans un camp de réfugiés. L'une de ces femmes, dont le mari a aussi été gravement blessé, était enceinte et le bébé n'a pas pu être sauvé. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a achevé aujourd'hui son retrait du couloir de Netzarim qui coupe en deux l'enclave palestinienne. Ce qui permet la libération d'un important couloir de circulation entre le sud et le nord. Le gouvernement du Hamas l'a annoncé, les véhicules peuvent désormais circuler librement dans les deux sens. Un retrait achevé au lendemain d'un nouvel échange d'otages et de prisonniers israéliens et palestiniens. Il y a 10 jours, lors d'un précédent échange entre Israël et le Hamas, 5 otages thaïlandais avaient été libérés. Ils avaient été enlevés le 7 octobre alors qu'ils étaient ouvriers agricoles dans un kibboutz israélien. Après quelques jours passés dans un hôpital israélien, après leur libération, ils ont enfin pu retrouver leur terre natale, la Thaïlande, Heike Schmidt.
Encore emmitouflés dans des doudounes, les 5 ex-otages sont arrivés dans la chaleur moite de Bangkok. Après 16 mois de captivité, ils ont été accueillis à l'aéroport par leurs proches en larmes. Ces 5 hommes vont maintenant pouvoir retourner dans leur région natale dans le nord du pays. La Thaïlande a négocié leur libération séparément, directement avec le Hamas et l'aide du Qatar et de l'Iran. Tous sont des ouvriers agricoles partis en Israël à la recherche d'un avenir meilleur. Comme quelques 30 000 Thaïlandais, ils étaient embauchés dans des kibboutz et des fermes, souvent dans ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire proches de la bande de Gaza. Après Israël, c'est la Thaïlande qui a payé le plus lourd tribut. Depuis le début du conflit, 46 Thaïlandais ont perdu la vie, selon des chiffres officiels. La plupart le 7 octobre 2023, lors de l'attaque du Hamas, d'autres sont décédés depuis en captivité. Aujourd'hui, un dernier otage thaïlandais est encore retenu à Gaza. Il serait toujours vivant.
Heike Schmidt du service international de RFI.
RFI.
Combien de fois Donald Trump a-t-il parlé avec Vladimir Poutine depuis son élection le 5 novembre dernier ? Réponse du président des États-Unis. Je ferais mieux de ne pas le dire. Des propos rapportés par le journal américain New York Post qui écrit aussi que Donald Trump a eu récemment une conversation téléphonique avec le président russe. La première depuis son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier. Un entretien que le Kremlin à Moscou n'a pas pu confirmer. Pas de commentaire non plus du côté de la Maison Blanche à Washington. Les pays baltes totalement intégrés au réseau électrique de l'Union européenne aujourd'hui après avoir coupé hier les liens avec la Russie, après avoir fonctionné 24 heures en autonomie. La synchronisation avec le réseau de l'UE a été achevée aujourd'hui avec succès. Et la présidente de la Commission européenne parle d'un jour historique. Nous sommes enfin libérés des menaces et du chantage. Les bureaux de vote ferment dans 3 heures. Au Kosovo, élection législative aujourd'hui avec un enjeu. Le Premier ministre sortant, Aline Kurti, obtiendra-t-il une majorité absolue, lui qui a marqué son dernier mandat par une ligne dure à l'égard de la Serbie? Et alors que plusieurs pays de l'Union européenne ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008, l'Union européenne multiplie les pressions sur Pristina, comme l'explique Florent Marciac, le co-directeur de l'Observatoire des Balkans pour la Fondation Jean Jaurès.
Le positionnement de l'Union européenne étonne, qui désavoue de plus en plus M. Kurti, qui pourtant dispose d'un soutien populaire, mais il désavoue de plus en plus M. Kurti en augmentant la pression sur le Kosovo et surtout en laissant la Serbie gagner au change. C'est-à-dire que dans la relation entre la Serbie et le Kosovo, on a un problème d'asymétrie où le Kosovo n'est pas reconnu par certains États membres de l'Union européenne, n'est pas reconnu par la Serbie. La pression augmente de plus en plus sur le Kosovo pour des réformes internes, pour donner des droits à la minorité serbe au nord du Kosovo, mais il n'y a pas de pression particulière sur la Serbie, même si effectivement on observe à Belgrade en ce moment une pression populaire qui vient du sol contre le régime autoritaire. Donc là, effectivement, on a deux poids, deux mesures, on a un manque de cohérence, on privilégie, on donne un petit peu de l'espace à un régime autoritaire à Belgrade et on n'apporte pas notre soutien à un mouvement qui a progressé démocratiquement et fait progresser le Kosovo ces dernières années.
Florent Marciac de l'Observatoire des Balkans pour la Fondation Jean Jaurès avec Carlotta Morteo. On vote aussi aujourd'hui en Équateur. C'est le premier tour de l'élection présidentielle avec 16 candidats, dont le président sortant Daniel Noboa. Les frontières du pays ont été fermées jusqu'à lundi, alors que le premier mandat de Daniel Noboa était marqué par la fermeté face à l'emprise des cartels de la drogue. RFI, il est 16h08 à Paris. On va parler de Tesla, qui a un peu moins le vent en poupe. La marque de voitures électriques autonomes d'Elon Musk a vu sa cote boursière chuter de 25% en un mois. En cause, les provocations politiques du bras droit de Donald Trump, mais au-delà, la crise du marché de la voiture électrique. Alexis Bédu.
S'il parade chaque jour sur les questions politiques, Elon Musk se fait rappeler à l'ordre sur le terrain économique. Et la douche en ce début d'année est particulièrement froide. Les ventes sont faibles en Europe, plus bas niveau depuis 4 ans. Elles s'écroulent en Chine, livraison en baisse de plus de 11% cette semaine, alors que son concurrent chinois BYD affiche sa meilleure semaine en bourse depuis 2020. Cela fait suite à un mois de janvier également catastrophique, avec par exemple des ventes en baisse de 63% en France et 40% en Norvège, le pays de la généralisation de la voiture électrique. Alors comment expliquer ces mauvais résultats ? La proximité d'Elon Musk avec Donald Trump n'est pas à négliger d'après les experts du marché mondial, mais il est encore trop tôt pour mesurer le véritable impact d'un potentiel boycott de la marque, les provocations les plus importantes comme le salut nazi du milliardaire étant particulièrement récentes. Non, Tesla, comme les autres constructeurs, souffre de la stagnation du marché de l'électrique après une année 2020 décevante et un rebond qui se fait toujours attendre.
Alexis Bédu, une panne générale d'électricité aujourd'hui au Sri Lanka, une panne de courant totale en cause. Un singe qui s'est introduit dans le transformateur général dans la banlieue de Colombo, la capitale du Sri Lanka. L'électricité a été rétablie peu à peu, mais on ignore ce qu'il est advenu de l'animal. Il est 16h10 à Paris, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, sur RFI en sol majeur.